Eh bien, ce matin, on regarde Genèse chapitre 6, et puis le premier verset commence avec « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées. » On parle ici d'une explosion en population, multiplication. Et puis, chapitre 6 commence avec une sommaire de chapitre 5, parce que chapitre 5 nous parle justement de cette multiplication plus en détail. Et chapitre 6 va nous parler, en fin de compte, de choses dramatiques. Et pour le fun, en préparant, je me suis posé la question, quelles sont les pires catastrophes qu'on a vues depuis le commencement de l'humanité? Les pires choses qui sont arrivées. Si vous parlez aux Américains, vous parlez de septembre 2001, quand on a fait descendre les tours, 2000 personnes plus sont mortes. C'est affreux, n'est-ce pas? Mais c'est pas le pire.
En Israël, les guerres en Israël. Là.
Combien de centaines? Combien?
Ben, c'est plus que 2000.
Presque 2000.
Pour les Juifs, les Juifs de l'Holocauste.
L'Holocauste, combien de personnes à peu près? 6 millions?
6 millions. 7 millions, 6 millions.
C'est quelque chose, c'est gros. Moi, j'ai fait un Google search. Je ne sais pas vous autres, moi, bien ça, jouer avec Google. C'est pas toujours l'affaire la plus précise, mais ce qu'ils ont sorti en ordre, la Première Guerre mondiale, 1914 jusqu'à 18. Il y avait 9,2 millions de personnes qui ont été tuées. 9,2 millions. C'est plus que la province de Québec. Si on viderait toute la province de Québec, ça, c'était la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, 15,9 millions. Ça en fait quelque chose. C'est quoi, la moitié du Canada? Et on efface la moitié du Canada. C'est beaucoup de monde qui sont morts. Prochain événement qui parle, c'est l'arrivée du sida. Le sida a enlevé la vie à, on parle de 22 millions de personnes qui ont perdu la vie à cause de cette maladie-là. C'est beaucoup, 22 millions. Un autre qui est dans l'histoire, c'est la peste noire, les années 1348 jusqu'à 1350. Ça a l'air que ça a tué au-dessus de 25 millions de personnes.
Wow.
Il y a beaucoup de monde en Europe qui ont perdu la vie à cause de cette maladie-là. Le pire qu'on connaît dans l'histoire connue, on parle de la grippe espagnole. La grippe espagnole, on parle de... Mais ils ne sont pas sûrs. 50 à 100 millions de personnes. On l'appelle la grippe espagnole parce que c'est là où on l'a diagnostiqué, mais la réalité, c'est que quand on fait des études, et les études, comme on est habitué à faire aujourd'hui, on cherche le cas, le patient zéro, le premier patient, on le trouve que ça se trouve à Kansas, sur une ferme. Et puis, cette ferme avait des garçons qui sont allés à la guerre dans la Deuxième Guerre mondiale et ils ont amené la maladie à travers les États-Unis. Et ensuite, d'un bateau jusqu'en Europe.
Ça, c'est une vraie pandémie.
Mais ça, c'est une vraie pandémie. Les gens ne comprenaient pas. On était en santé le matin, le soir, on était malade le lendemain matin. Notre cadavre était dans la rue pour le ramasser. C'était une maladie si rapide et si... Et aussi, une autre chose intéressante, j'ai un livre juste sur cette maladie en passant. C'est une maladie qui affectait les gens de 18 à 40 ans. Quelqu'un comme moi, toi Jacques, ça nous aurait fait un petit grippe. Mais les jeunes, pour quelque raison, leur système, la façon que c'est fait, ça l'attaque et c'est agressif. Et littéralement, ça a coupé une génération au complet pendant les années 20. Non, si je fais la somme totale de cette liste, j'arrive à peu près à 100 millions de personnes. 110 millions de personnes. Et la question que les gens ont posée à travers l'histoire, à chaque fois que ça arrive, la question qui sort, pourquoi Dieu permet cela? Et on sait déjà la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu le permet?
Les gens sont méchants.
Les gens sont méchants. Et pourtant, ce n'est pas la pire catastrophe dans l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça fascinant en regardant le sujet de la déluge. On n'a jamais un nombre exact. Hein? Combien de personnes? Si on va sur le site de Answers in Genesis, si on va dans les différents bouquins qui ont été sortis, on a beaucoup d'estimés. Les estimés varient énormément. Au moment de la déluge, on parle d'environ 750 millions de personnes sur la planète, jusqu'à 4 milliards. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Mais quand on pense à ça, c'est beaucoup, ça. Mais ce qui est intéressant, et on va le voir dans le passage, Dieu détruit combien de personnes? C'est pas important. Dieu détruit tout le monde, sauf 8. Il y a 8 personnes qui ont survécu. La balance, ils ont été éliminés. Et une extinction totale. Mais quand on regarde ce passage, ce qui me fascine énormément, c'est la manière que c'est structuré. On a dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, que les filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ben oui, hein? Et ils en prirent pour leurs femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Alors l'Éternel a dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On parle ici d'une multiplication de l'humanité. Et il y a un couple des éléments qui sont importants à comprendre. Quand il parle ici d'un âge moyen de 120 ans, c'est important parce que chapitre 5 nous parle de combien d'années? C'était pas 120 ans.
900, 800.
Wow! C'était plusieurs centaines d'années. Ça dépendait de toutes sortes de situations. Mais si on regarde chapitre 5, la meilleure façon de résumer chapitre 5, vous pouvez le lire, et ça va comme ceci, OK? Il engendra des fils et des filles. Ses jours furent quelques centaines d'années, il va le dire exact pour chaque personne. Puis il mourut. Tout ce qu'on sait au sujet de cette période entre Cain et Abel et jusqu'à temps qu'on arrive à Noé, c'est que les gens ont eu des enfants, ils ont vécu longtemps, puis après ça, ils sont morts. Et ça, c'est important parce que c'est pas la question de est-ce que c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards ou 4 milliards de personnes. Ça a quasiment plus d'importance parce que Dieu a décidé qu'il va couper ce cours. C'est ça qui est arrivé. La seule exception en passant, c'est Enoch. Lui a vécu 365 ans. Il a eu des enfants. Mais Enoch marchait avec Dieu. C'est ça que la parole nous dit. Puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Est-ce qu'il est mort soudainement ou est-ce qu'il a simplement monté au ciel comme le prophète Élie? On ne sait pas.
S'il était mort comme les autres, je pense que c'est ça que la Bible aurait dit.
Moi aussi. Yeah. Je suis entièrement d'accord. Et les Écritures nous donnent cette image que Dieu l'a simplement pris. C'est fascinant. Mais le catch, c'est que Enoch marche avec Dieu. Now, avec cette explosion de population, en passant juste une note de côté, comment est-ce qu'on fait les estimés? On varie énormément à cause de... On essaie de déterminer comment long est-ce que la moyenne de la population vivait. Si Dieu dit qu'il va le limiter à 120 ans, ça veut dire que c'était plus. 120 ans donne la possibilité d'avoir une vie beaucoup plus productive. On peut faire bien plus de choses. Est-ce qu'on est d'accord? Ceux parmi ceux avec les têtes blanches, on fait de moins en moins. Mais si tu me donnerais une autre centaine d'années, watch out. Hein? Moi, je vais faire des choses. Et l'idée, c'est que la vie est beaucoup plus productive. Est-ce qu'on a eu 4 enfants, Christiane, ou est-ce qu'on a eu plus si on avait 900 ans, moi et toi? Il pense. Peut-être, on ne sait pas. Mais vous comprenez, la logique, c'est qu'on a un estimé basé sur une génération qui est beaucoup plus longue que le simple 35 ans qu'on regarde aujourd'hui. Normalement, on a des jeunes qui se marient, ils ont des enfants à 35 ans, c'est pas mal cuit l'affaire. et on est prêt à penser à la prochaine génération. Mais les générations ici étaient probablement beaucoup plus longues. On sait qu'ils avaient, dans chapitre 5, on a une période de plus que 1650 ans, 1650 ans dans une chapitre. So, ça donne beaucoup de temps à avoir beaucoup d'enfants et des enfants d'avoir beaucoup d'enfants. Quand les gens à l'ouvrage, ils voient mon photo de familiale que j'ai en arrière de mon bureau, là, ils voient toute ma gang, puis ils disent, « Wow, t'en as beaucoup de petits-enfants! » Puis, je vais te le dire, Mme Martha, je n'ai jamais demandé pour des petits-enfants, hein? Je n'ai pas supplié, rien. Pouf! Martha en a eu des enfants. William a eu des enfants.
Il y a des enfants obéissants.
Hey, des enfants obéissants! Oh, man! On aime ça, les enfants obéissants. Mais vous comprenez l'image, n'est-ce pas? Ça multiplie! Puis c'est pas comme si on s'essayait de faire grand-chose, on a simplement essayé d'élever une famille, d'aimer notre époux, notre épouse, de passer du temps paisible. Et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive avec toute une gang. Alors, on a cette image ici qu'on a beaucoup de personnes. Deuxième chose que les experts aujourd'hui ont beaucoup de misère, c'est le taux de fertilité. Il y a une question de savoir, est-ce que ces gens-là étaient plus en santé qu'aujourd'hui? Moins de maladies, moins de problèmes physiques, possiblement plus d'enfants, ça arrive. Ici au Québec, si on retourne quoi? 80 ans, 50 ans, une famille, c'était combien d'enfants? 10, 12, 11, OK? Chez mon père, il y en avait 7. Il y en a un que je connais, c'était vingtaine. I mean, il y a question de fertilité, d'avoir beaucoup. Est-ce qu'ils avaient les contraceptions qu'on a aujourd'hui? Non. Probablement pas. So, les enfants venaient beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et c'est d'ailleurs, tu peux voir la variation dans les estimés simplement en regardant les différents taux. L'autre chose aussi, j'ai lu ça hier justement, ça m'a arrêté un peu dans mes bottines, mais si tu penses à la population aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui sur la planète à peu près 8 milliards de personnes. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Mais si on prend en considération tous les guerres, toutes les maladies, et j'en ai mentionné beaucoup au commencement, n'est-ce pas? Mais c'était juste les plus gros. Mais il y en a plein d'autres. Si on prend tout ça en considération, comment est-ce que ça affecte l'évolution de la population? Est-ce que ça réduit le chiffre? Ça le baisse? Parce que moi, j'ai perdu mes enfants à la guerre, et puis là, il manque une génération dans notre famille. Est-ce que ça pourrait être une situation semblable? 1600 ans permet beaucoup d'événements dans une histoire humaine. Je te dis ça simplement, c'est qu'il y avait une augmentation de violence depuis le péché dans chapitre 3 jusqu'à chapitre 6. Dans chapitre 4, la semaine passée, Roy nous a parlé de Cain et Abel. Abel, la première victime de meurtre. Hein? Cain, le premier meurtrier. Ça commence tout de suite là avec les enfants d'Adam, la violence. Cain est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère. Et probablement, il y avait des petites conversations entre les deux, puis il y a des choses qui se sont dites. Tu n'as pas amené la bonne chose, puis tu le savais. Laisse-moi tranquille, affale-moi pas. Et tu peux voir où ça devient pompé. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Et j'ai l'impression, en lisant chapitre 5, que ce n'est pas la seule situation. À la fin du chapitre 4, on a le mec qui dit à ses deux épouses, déjà la polygamie, il dit à ses deux épouses, « J'ai tué un homme. » Le gars, il se vante d'être meurtrier. Moi, je te dis, 1650 ans plus de violence. Et comment est-ce qu'on arrive à un chiffre exact? On ne sait pas. Mais on sait que le monde se remplissait de péchés. Verset 5 nous dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. » D'habitude, quand on fait l'école du dimanche avec des tout-petits, on va raconter l'histoire de Noé qui est obéissant, qui entend la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le bois, il coupe des arbres, il les taille, il commence à monter une belle bateau. Et c'est vraiment une construction merveilleuse avec tous les animaux, deux par deux. Et on raconte comment est-ce que Dieu les a protégés à travers une déluge et comment c'était donc merveilleux. Je pense qu'on manque le point quand on raconte cette histoire-là. Je ne sais pas si vous avez des livres d'enfants chez vous. Nous autres, on en a tellement. Puis quand on arrive à nos livres sur le déluge, les photos sont merveilleuses, sont jolies. Les couleurs, les images, les animaux sont cute. Et c'est tellement beau de les voir tout arriver. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est la méchanceté de la peur de l'homme. C'est ça l'histoire. Pense à des centaines de millions, pense à des milliards de personnes qui vont perdre la vie à cause du péché. Et tu vas dire quoi? Noé, c'est une histoire de jugement. C'est pas un petit tour avec le zoo sur la mer. Non, non. C'est méchant. Et d'ailleurs, quand on commence à réfléchir sur combien de personnes qui sont mortes, demande à mon épouse quelle est la pire façon de mourir. Elle va te le dire? Noyée. Elle, quand elle entend quelqu'un qui se noie, elle trouve ça affreux, pénible. Et je ne le blâme pas parce que ça doit être horrible. Imaginez-vous, être dans l'eau, pas capable de respirer, et tu vois tout et tu ne peux rien faire.
Et c'est là-dessus, la ventilation.
Hein?
C'est une mort silencieuse parce qu'on veut crier, personne ne t'entend.
Personne. T'es seul. Seul avec les dernières secondes de ta vie. Mais c'est affreux quand on y pense, hein? Et là, on a des millions de personnes sur la surface de la Terre qui vont toutes perdre leur vie. Verset 11 dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarde la terre et voici elle. Était corrompu car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Beaucoup de répétitions, et nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Nous qui sommes des parents, répétition veut dire quoi? C'est important. Et la parole de Dieu nous dit que quoi? C'était pourri. Le monde était pourri. Le peuple était pourri. Leurs actions étaient pourries, corrompues. Et on a cette image sans arrêt de comment est-ce que c'était affreux. Comment c'était une place où ce que Dieu ne pouvait plus le sentir. Alors, une couple de choses que je veux juste vous dire en passant, et on le voit ici dans le passage. Numéro un, Dieu n'est pas ignorant. Dieu est conscient. Il sait très bien qu'est-ce qui passe sur la planète. Il sait très bien qu'est-ce qui passe avec chaque personne dans l'humanité. Il sait tout ce qu'ils font, toutes les actions qu'ils font. Il sait la méchanceté. Et on a cette image ici qui connaît leur voix, il connaît leur cœur, où est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi leurs intentions. Et il sait très très bien, Dieu n'est pas surpris. Dieu le voit arriver depuis chapitre 3. Dieu le voit arriver la désobéissance. Et je vais dire quelque chose, dans ma compréhension de la parole de Dieu, Dieu le sait avant même la fondation de l'univers. Je vais créer un univers parfait, Dieu le sait, Dieu le fait, il le dit, ça arrive, tout en sachant qu'il va être obligé de sauver des êtres humains déchus, désobéissants. Il n'y a rien qui lui surprenne, il n'y a pas de secret devant Dieu, il sait ce qui est dans notre cœur, il sait tout, on ne peut rien lui cacher. Et il sait tout, c'est drôle, dans chapitre 6, on ne parle pas de nombre de population, on ne parle pas des grands pays, les États-Unis, c'est bien plus beau, on va parler de ça la semaine prochaine, on ne parle pas de l'Europe, on ne parle pas de rien de même, on ne parle pas des grandes constructions, on a fait un mur en Chine qui on peut voir de l'espace, on ne parle pas de qu'est-ce que l'homme a fait de bien. On parle de son péché. Intéressant. Dieu veut qu'on comprenne que le déluge, c'est pas parce que l'homme est fondamentalement bon, mais qu'il s'est tombé une fois ou deux. Non, non, c'est pas ça. Le cœur de l'homme est déchu. Le monde, après 1650 ans, c'est la pourriture. Moi, j'ai l'impression que ça représente notre monde aujourd'hui, non? Notre monde aujourd'hui, Christian et moi, on a une conversation cette semaine, c'était drôle, mais je suis sûr que vous avez réfléchi. On essaye de regarder la télévision. On n'est pas capable de trouver une émission qui est potable. C'est soit le péché d'un, le péché d'un autre, la violence de ci. On essaie de regarder les nouvelles. Les nouvelles, c'est affreux. Et moi, je pense qu'on pourrait prendre justement là, tous ces événements qu'on a devant nous, les manchettes, l'Internet, et puis de mettre dans ce passage. C'est tellement typique. Et Dieu dit que quoi? Verset 6. Dieu se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Dieu est blessé. Est-ce que vous avez jamais fait des choses en sachant que ça va te faire mal? Moi, je pense à Dieu qui avait planifié un monde parfait en sachant qu'on va lui faire de la peine. C'est quelque chose, ça. C'est triste quand tu penses que Dieu il se prépare. Et il dit ici que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, lundi, mardi, mercredi, chaque jour, l'un après l'autre, et uniquement vers le mal. Tellement. Il y a une autre façon de dire ça en français. Obsédé par le péché. Est-ce que vous connaissez du monde qui sont obsédés par le péché? J'en connais, moi. Le péché est la seule chose à quoi ils se pensent. Ils ne sont pas capables de tourner leur visage vers l'Éternel. Et là, on a chapitre 6, on a Dieu qui dit quoi? Il fut affligé dans son cœur et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Moi, je questionne un peu pourquoi Dieu semble obligé même de détruire les animaux et les oiseaux. Et j'ai une théorie qui est peut-être un peu bizarre. Est-ce que j'ai jamais vu un homme qui a fait un péché grave dans sa famille? Qu'est-ce qui arrive à sa famille? Les conséquences sont affreuses, n'est-ce pas? Sa femme ne veut pas sortir de la maison. Elle a honte de son mari qui a fait un acte criminel. Elle est mal placée. Les enfants?
À l'école.
Ils se font moquer d'eux. Ah, ton père, c'est un voleur. Il s'en va en prison. Hein? Combien de fois est-ce qu'on voit les familles détruites par le péché d'une personne? Et ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences. C'est des gens qui sont à l'extérieur. En anglais, on dit collateral damage, les dommages. C'est pas qu'on voulait faire mal à tout le monde, mais ça finit que ça fait mal à tout le monde. Hein? C'est incroyable comment ça arrive. Et j'ai l'impression que Dieu a dit, tout ce qui a été pollué par le péché, tout ce qui était contaminé par le péché, la terre, les animaux, les oiseaux, et évidemment les hommes et les femmes, tout va partir. Alors, la question la plus importante qu'on a ce matin, et je te dis ça parce que je vous prépare en parlant de ces versets-là, mais la question la plus importante au sujet de Genèse 6, 7, 8 et 9, c'est quoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu tolère ça? Pourquoi il a attendu 1650 ans? Ah, je ne sais pas. Je trouve ça fascinant. Pourquoi? Le domaine de Dieu qui a fait parfait, est-ce qu'il laisse devenir comme ceci? Il est le créateur de toutes choses. Il doit faire ce qu'il peut faire parce qu'il est juste. Il a le pouvoir, la puissance nécessaire. Il est omniscient, il est omnipuissant. Il peut tout faire. Et pourtant, dans sa souveraineté, il a décidé de faire un déluge. Déluge très simple. C'est qu'il va détruire tout. Mais dans cette plan de destruction, de jugement, Dieu pourvoit quand même un moyen de la miséricorde. Est-ce qu'on comprend? Dieu n'a pas fait l'arche dans 100 ans. Dieu aurait pu faire l'arche instantanément, mais non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a dit à Noé, qu'est-ce qu'il a dit à Noé? Toi, va construire l'arche. Verset 8 nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Et Noé est gracié par Dieu. Et cette concept de grâce que nous, comme enfants de Dieu, nous le recherchons et nous le recevons de la grâce de Dieu par le Fils qui est mort pour sur quoi? Payer nos péchés. Et Noé a la même chose ici. Noé a cette grâce que Dieu a, il le regarde. Est-ce qu'il est parfait, Noé? La réponse est non. On verra ça rendu à chapitre 9. mais il est obéissant. Et ça, je veux le constater ici. Parmi toute une population qui est remplie de violence, de méchanceté, il y a un bonhomme qui est obéissant à Dieu. Il fait ce que Dieu veut. Tantôt, on riait au sujet des enfants obéissants. Mais nous, comme enfants de Dieu, on doit chercher à être obéissants comme Noé. Pourquoi? Parce que Noé fait exactement ce que Dieu dit. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécutait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dans verset 14 jusqu'à 21, il y a une longue liste d'instructions, des détails à remplir. Et Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il vire de bord, il le fait. Et ça lui prend des années, des décennies. On ne sait pas exactement quand, combien. On sait que quand Dieu a parlé à Noé, la première fois, il y avait environ 500 ans, les Écritures nous disent, mais il a sorti de l'arche, il avait 600 ans. Alors, il y a une centaine d'années de différence entre les deux. En passant l'arche, il y a seulement deux places dans les Écritures où on parle de l'arche. Le mot hébreu, l'arche. Nous, en français, en anglais, on a ça à travers tous les exemples dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance. En passant, c'était quoi l'Arche de l'Alliance? C'était une... Est-ce que vous vous souvenez de vos petites écoles, dimanche? L'Arche de Noé, c'est quoi? C'est un coffre. Une boîte. Ouais. C'est ça que ça veut dire, en passant. Le mot hébreu voulait dire simplement une boîte. Une boîte de bois. Et deuxième place où ce mot hébreu est utilisé, c'est dans le commencement d'Exode. Et devine, on a fabriqué une arche pour bébé Moïse. Dans les deux arches, semblent être utilisées dans le sens c'est une boîte qui flotte. Et dans les deux cas, on veut s'assurer que les résidents intérieurs survivent. Et on voulait que Moïse, il puisse survivre. On a cette image. Pour nous, comme enfants de Dieu, on pourrait dire, mais moi, j'ai une arche. Est-ce que vous avez une arche, vous autres? Quand je suis dans cette arche-là, moi, je suis sain et sauf. Il y a rien? Hein? Christ, oui. Une des images les plus importantes ici qu'on voit, que la miséricorde de Dieu se voit dans l'arche que Dieu nous donne. Et moi, je peux te dire, moi, je comprends très bien l'image à cause de cela. Malheureusement, Noé ne comprenait pas. Il avait simplement les instructions, il l'a fait fidèlement. Et c'est seulement après le déluge qu'il pouvait comprendre pourquoi Dieu l'a fait de telle façon. Lorsqu'on regarde ici, on dit que Noé a obéi. On est impressionnant parce qu'on voit comment est-ce qu'il exécutait tout ce que Dieu voulait donner, verset 22. Il y avait en passant des débats parmi les différents commentaires. Est-ce que Noé l'a construit tout seul avec ses trois garçons ou est-ce que la construction était si grande que ça prenait des employés? J'aime beaucoup l'idée des employés. J'aime ça le travail d'équipe, surtout quand les morceaux de bois sont pesants. C'est fun d'avoir du monde. Je peux voir la beauté de voir ça humainement. Mais l'apôtre Pierre nous dit que pendant ce temps-là, Noé était un prédicateur. Noé prêchait. Et s'il y avait des employés, il aurait entendu l'évangile de Noé. Vous autres, il faut que vous embarquiez avec nous autres dans le bateau. C'est important, autrement, tu vas perdre la vie. Pourtant, il y en a seulement Noé, ses fils, leurs épouses qui ont pu embarquer. Alors, tu peux voir où est-ce qu'il y a le débat est là. Cette grande boîte, cette barge, on parle de 150 mètres de long. On parle de 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Une énorme boîte carrée. Il n'y a aucun gouvernail, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. C'est juste une grosse boîte conçue pour une chose, flotter par-dessus l'eau. Incroyable. Et on a un témoignage qui a tout vu ce qui est arrivé, c'est l'Éternel. Et il donne ce témoignage de comment est-ce qu'il a donné des instructions à Noé, et Noé le fait. Verset 1 de chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Devine qu'est-ce que Noé fait. Il fait exactement ce que Dieu lui dit. Il rentre. Et il dit, « Rentre dans la maison parce que quand je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Il voit en contraste, il dit, « Noé, t'es obéissant, moi je voudrais te sauvegarder, je veux te donner miséricorde, je vais te faire grâce. Il rentre les animaux deux par deux. L'idée, c'est qu'on veut protéger l'existence de l'humanité, des animaux. Alors, on va mettre dans l'arche le minimum. Ça nous en prend deux, tout le temps, un mâle et une femelle. Et ensuite, il nous dit d'amener 7 paires des animaux qui sont purs. Et la réponse, c'est que ces 7 animaux-là, 7 paires, ça veut dire 14 agneaux, tous les différents animaux purs, pour des sacrifices. Il semble que Dieu sait très bien qu'on va avoir besoin d'envoyer et de créer, de faire des sacrifices. Alors, Dieu envoie la pluie dans chapitre 7 pendant 40 jours et 40 nuits. Verset 5 nous dit que Dieu ferme la porte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions au sujet de cela. Simplement pour dire, Noé a bâti le bateau, mais Dieu a fermé la porte. C'est Dieu qui détermine toute chose. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est quelque chose d'important à constater comment est-ce que Dieu est en contrôle. Même au point de fermer la porte. Et l'eau, verset 11 nous dit, monta et la pluie tomba. Un des éléments que moi, comme un enfant, je ne comprenais pas, mais seulement avec la lecture, est-ce que j'ai commencé à comprendre dans mon adolescence, c'est qu'il y avait de l'eau qui descendait comme la pluie. Nous, on était habitués à ça. Il y a beaucoup des commentaires qui disent probablement avant Genèse 6, il n'y avait pas de pluie. Ils n'étaient pas habitués à avoir la pluie. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais on constate qu'il y avait de l'eau qui descendait du ciel, mais aussi, il nous parle ici qu'il y avait des énormes voûtes en dessous, où ce que l'eau montait d'en dessous. Et un des problèmes qu'on a avec ce passage, c'est de comprendre exactement comment c'est arrivé ça. Mais si on retourne à Genèse 1, versets 6 à 8, on a un commentaire très important. Dans la création, Dieu séparait les eaux. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai pensé que Dieu prend l'eau, puis il tasse, puis il fait place pour les continents, puis il place, il tasse l'eau. Mais ici, on parle de séparer l'eau de en haut, d'en bas, exact. Yeah. Et on voit tout de suite, on a peut-être 1600 ans où on vivait sur une terre qui flottait sur de l'eau et on vivait sur une terre qui était couverte par une toile d'eau. Et là, on voit comment est-ce que Dieu a simplement descendu ces deux-là. Une des choses que je me suis parti à réfléchir, est si Dieu est souverain par-dessus toute chose, il l'a fait pour quelle raison? Probablement pour préparer ce jugement, en sachant très bien que il va être obligé, à un moment donné, hein, très précis, il va être obligé de punir la terre, et voici, il le préparait d'avance. Je ne sais pas. Je sais que lorsqu'on regarde les théories d'évolution, on essaie d'expliquer toute chose par une transformation tranquille, une transformation progressive. Comment est-ce que le fameux Grand Canyon est si profond? Ah, ça a pris des millions d'années pour que ce soit tout grugé par la rivière. Et quand on regarde des histoires comme celui-ci, on dit, une transformation radicale va se produire. Si l'eau monte, si l'eau descend, c'est soudain. Les montagnes vont être creusées, ils vont être sculptés, si tu veux. Ils vont être taillés. Les vallées vont être creusées par un déluge énorme. Alors, on voit cette situation. Et verset 21 nous parle ici que le mouvement sur la terre, tout ce qui mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail, les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. On ne sait pas le chiffre, mais il y en avait beaucoup. Ils sont tous morts. Okay? L'eau a monté, verset 20 nous dit, pour qu'il dépassait une hauteur de 7 mètres par-dessus les plus hautes montagnes. 7 mètres, c'est quand même assez haut, mais quand tu penses à une planète remplie, ça va être une augmentation assez impressionnante comme hauteur, n'est-ce pas? Et l'eau était là. Beaucoup des commentaires essaient de nous convaincre qu'à cause de cette déclaration, 7 mètres au-dessus des montagnes les plus hautes, que le déluge était global, tout le tour. C'était pas juste dans un endroit, mais c'était partout. Et ça paraît avec la parole de Dieu que c'est exactement ce qui s'est dit. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, verset 23. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alors, on a une période de temps où on s'assure que rien peut survivre. Absolument rien. Et on répète et répète justement cette idée extermination de l'humanité et de son cœur pécheresse. Dieu s'est gardé un restant par le moyen de l'arche, 8 personnes pour être capable de recommencer. Et Dieu a exercé sa justice sur le péché, tout en démontrant sa miséricorde à Noé. Alors, la question que je vous donne, on arrive à la question de pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On est plusieurs milliers d'années plus tard. C'est arrivé, il n'y a rien qu'on peut faire. Triste, vraiment triste. Mais d'autre part, on est là, on se pose des questions. Et moi, on est dans l'an 2024, est-ce que ça a vraiment d'importance à nous? Et j'aimerais terminer avec un passage autre que Genèse 6, 7, 8, 9. J'aimerais vous parler de 2 Pierre 3. Verset 3 jusqu'à 10. Pierre écrit à l'Église, il dit, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'un tiers tiré de l'eau est formé au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Déjà, on a dans la parole de Dieu, pour nous préparer, une définition du jugement que Dieu a fait. Tous ont péri, tous, sauf les 8 qui étaient dans l'arche. Et Dieu va le faire encore, mais cette fois-ci avec le feu. Et ça devrait nous pousser à dire, j'ai besoin de mon sauveur. J'en ai absolument besoin. Et ceux qui sont autour de moi, ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de cette grâce que Dieu nous accorde. Dieu nous a fourni son Fils pour porter nos péchés. Et c'est disponible à quiconque. N'importe qui peut croire. Il n'y a pas de discrétion. Mais je sais très bien, en lisant l'histoire de le déluge, que le cœur de l'homme est rebelle. C'est pas facile. De renier tout ce que nous, on tient précieux, mon orgueil, mes plaisirs, c'est difficile de tourner et tout donner au Seigneur. Mais nous, ça nous met dans une situation très importante. Comme évangéliste sur la terre, on est un peu comme Noé, on attend, on fait le travail que Dieu dit, j'espère qu'on obéit à Dieu fidèlement, mais on a une opportunité d'annoncer l'Évangile. On a construit un modèle pleine grandeur de l'arche. Il y a des gens que je connais qui l'ont visité. C'est-tu grand? C'est grand, hein? Et pourtant, on voit cette image et on dit, imaginez-vous Noé qui travaille là-dessus. Et comme aujourd'hui, c'est une attraction, une centre de divertissement où ce que les gens viennent pour voir. Imaginez-vous, les gens disent, hey, il y a un gars dans le désert qui bâtit une énorme boîte de bois. On va-tu le voir? Tu peux voir le monde arriver, puis regarder Noé. Et Noé leur dit, je construis ça parce que Dieu dit qu'il va envoyer un déluge, que Dieu va envoyer un jugement. Et imaginez-vous l'opportunité à ces gens-là qui puissent croire, qui puissent dire, mais je peux aller avec toi? Est-ce que je peux laisser ma vie ici, plein de violence, plein de péchés, et obéir comme toi tu fais, Noé? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Tellement. Ça, c'est la partie la plus triste. Quand on pense à cette histoire, les hommes, les femmes, pécheurs, punis pour l'éternité. Ah, incroyable. Eh bien, terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as gardé ce récit, que tu nous as protégé ça pour qu'on puisse recevoir cet avertissement. Seigneur, on a plein de questions et on sait que c'est toi qui es en charge. On sait que tu avais une raison juste pour punir la population. Seigneur, on sait que ça s'en vient encore une fois. Et Seigneur, on voit le péché autour de nous. On cherche à t'obéir. On voudrait que tu nous guides, que tu nous protèges, que tu nous amènes où tu veux, que nous, on soit les enfants qui t'aiment et qu'on puisse recevoir cette grâce que tu as envoyée, ton Fils, pour nous. Seigneur, on demande que tu puisses nous aider à être des bons témoins. Et on demande, Seigneur, que tu nous prépares nos cœurs pour l'adoration qui vient. Nous demandons ces choses pour le nom de Jésus. Amen.